Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et voilà, bonsoir Régis.
Bonsoir Odile, bonsoir à tous. Alors. Voilà, alors nouvelle émission sur Fréquence Mistral pour la dignité. Émission d'Amnesty International, voilà. Alors, je dédie cette émission à Gaëtan Motto, qui était un chercheur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et qui est décédé brutalement en fin de semaine dernière. Voilà, donc on est tous tristes parce que ça faisait plus de 30 ans qu'il était chercheur à Amnesty International. Pour l'Afrique de l'Ouest, donc il partageait son temps entre la section française à Paris et puis la plateforme de Dakar qui est justement sur place et puis bien sûr toutes les enquêtes qu'il a menées en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, dans toute cette Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, il a notamment beaucoup travaillé par rapport à notre défenseur des droits humains, prix des droits de l'homme de l'ONU, Biram Dahabé, qui lutte pour l'abolition vraiment dans les faits de l'esclavage en Mauritanie et qui s'est retrouvé plusieurs fois en prison. Donc, il est allé le voir en prison, il a rencontré les militants et on a beaucoup correspondu sur ce cas ensemble. Voilà, donc je dédie cette émission à Gaëtan Motto pour tout le travail qu'il fait, surtout que tous les chercheurs d'Amnesty, c'est sur eux que repose l'action d'Amnesty, puisque c'est eux qui font les enquêtes et qui nous donnent matière à se battre pour défendre les personnes victimes du non-respect de leurs droits. Voilà, donc c'est une grande figure qui nous a quittés. Voilà, on va parler donc du bilan de la foi au livre, du Soudan, revenir sur le délit de solidarité, et puis continuer les informations sur les ventes d'armes françaises. Parler un petit peu de Gaza, vous avez tous vu le bain de sang qu'il y a eu, et puis parler un petit peu du groupe de Digne. Voilà, donc nous avons fait la semaine dernière notre foire au livre. Donc ça commence à faire pas mal de foires, puisqu'on avait commencé en 1999 par une toute petite foire avec très peu de livres. Et maintenant, on remplit chaque fois la salle de l'Atrium et on essaye de renouveler le stock d'une foire à l'autre. Donc, ça se fait, on renouvelle bien parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent nous acheter des livres. Et entre deux foires, il y a beaucoup de personnes qui nous proposent des livres. Voilà, donc ça fait tourner les livres. Et puis en même temps, notre groupe recueille de l'argent qui permet d'effectuer nos actions.
Alors, est-ce que c'est toujours à peu près la même somme ?
Oui, alors on est toujours dans un peu plus de 2000 euros, une fois qu'on a enlevé les frais. Mmh. Mais il n'y en a pas énormément. Et donc voilà, alors cet argent, bien sûr, il y a une partie qui va à Amnesty International, section française. De cette partie, il y a une partie qui va à l'international, pour notamment payer les chercheurs et puis les rapports, voilà. Il y a une partie donc qui est utilisée par le groupe notamment pour acheter des timbres parce que chaque membre du groupe envoie toutes les semaines 5, 6, peut-être 10 lettres à l'international. Alors des fois on envoie des mails, c'est beaucoup moins cher, mais quand c'est un courrier papier, c'est important de toujours aussi envoyer des courriers papier, c'est 2 euros la lettre, donc ça va très vite. Et puis en même temps, cet argent nous permet aussi de faire un don à Primo Levi, qui est une association de soutien psychologique aux victimes de torture parmi les migrants, et en priorité aux enfants, hein, parce que les enfants qui ont connu la guerre, qui arrivent chez nous, sont très traumatisés. Et donc, Primo Levi, est une association qui leur vient en aide en priorité, et puis bien sûr aux adultes. Mais c'est vrai qu'on a toujours donné la priorité aux enfants. Voilà, c'est une association qui avait été créée en partie par Amnesty International et qui a besoin de financement important. Et puis en même temps, on aide aussi les sections d'Amnesty International d'Afrique francophone. On a aussi un fonds dédié aux défenseurs des droits humains pour les aider aussi quand ils ont des problèmes financiers. On peut aussi aider, par exemple, pour payer un avocat pour un demandeur d'asile, en partie. Hein, donc voilà, c'est tout cet argent que nous recueillons grâce à cette vente de livres sert à tout ça. En fait, ça sert pour les droits humains. Voilà.
Ça rapporte plus que les concerts, hein. Finalement, ouais, j'étais en train de penser, peut-être il faudrait faire des concerts sur plusieurs jours avec un pass.
Ouais, oh ben ça.
Une entrée, un forfait, je sais pas.
Ouais. Ouais. Il faut voir. Mmh. Ouais. Après, bon, il y a des actions qu'on fait aussi qui sont pas uniquement pour apporter de l'argent. Hein. C'est vrai que. Bon, la foire aux livres, c'est vraiment une action pour apporter de l'argent, mais c'est aussi sympathique parce que les gens reviennent d'une année sur l'autre, on discute, ça nous permet de présenter un peu le mouvement et puis ils signent volontiers les pétitions, voilà. Après, quand on fait par exemple le festival du cinéma, on cherche pas du tout à gagner de l'argent, hein, mais à débattre. Des thèmes à partir de ces films qu'on a sélectionnés. Voilà, et bon, le concert aussi, c'est un moment festif où on est content de vous écouter. Hein. Et puis, bon, ça rapporte un petit peu d'argent quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va parler du Soudan où il y a un cas bien précis qui est assez terrible. Voilà, c'est une jeune femme, Noura Hussein Ahmad, qui est incarcérée dans la prison pour femmes d'Omdurman depuis mai 2017. Elle a été condamnée à mort le 10 mai pour avoir tué l'homme que son père l'avait forcé à épouser quand elle avait 16 ans à peine. Noura Hussein avait toujours rêvé de devenir enseignante, mais elle a été mariée contre son gré à un homme violent qui l'a violée et l'a brutalisée. Noura Hussein a été mariée contre son gré à Abdulrahman Mohamed Hamad, à l'âge de 16 ans. La première phase de la cérémonie de mariage comprenait la signature d'un contrat de mariage entre son père et Abdulrahman. Donc elle n'avait aucune voix au chapitre. La deuxième phase de la cérémonie de mariage a eu lieu en avril 2017, quand elle était forcée d'emménager chez Abdulrahman après avoir terminé ses études secondaires. Lorsqu'elle a refusé de consommer le mariage, Abdulrahman a demandé à deux de ses frères et à un cousin de venir l'aider à la violer. La législation soudanaise autorise le mariage d'enfants à partir de l'âge de 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans. Le 2 mai 2017, les trois hommes ont maintenu Noura Hussein pendant qu'Abdulrahman l'a violée. Le lendemain matin, il a essayé de la violer une nouvelle fois, mais elle a réussi à s'échapper dans la cuisine, où elle a saisi un couteau. Lors de la bagarre qui s'en est suivie, Abdulrahman a reçu des coups de couteau qui ont provoqué sa mort. Noura s'est alors enfuie au domicile de sa famille, mais son père l'a remise à la police qui a ouvert contre elle une procédure pénale. Le compte-rendu de l'examen médical pratiqué à la suite de la lutte indique qu'elle a été blessée, notamment avec une morsure et des éraflures. Lors du procès en juillet 2017, le juge a appliqué une loi archaïque qui ne reconnaît pas le viol conjugal. Noura Hussein a été inculpée au titre du Code pénal de 1991 et déclarée coupable d'homicide volontaire. Le 29 avril 2018, au tribunal pénal central d'Omdurman. Voilà. Ça me fait penser à ce qu'on disait à l'émission précédente, hein, où on parlait justement du viol. Et une relation sexuelle sans consentement, ben, c'est un viol. Hein. Et le viol conjugal, ça existe aussi. Voilà, donc...
Donc elle est condamnée à mort.
Elle est condamnée à mort.
Et Amnesty
essaie d'intervenir. Donc, ça nous fait parler de la peine de mort, hein, qui est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Et le fait de l'infliger à une victime de viol souligne que les autorités au Soudan ne reconnaissent pas les violences qu'elle a endurées. Les autorités soudanaises doivent annuler cette sentence inique et veiller à ce que Noura bénéficie d'un procès équitable, tenant compte des circonstances atténuantes propres à cette affaire. Voilà. Je vous rappelle, je vous disais déjà la dernière fois, le mois dernier, que seulement 9 pays européens reconnaissaient qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Mmh. Voilà, il y a des pays où il y a des mariages forcés de personnes d'âge mûr, d'adultes, avec des enfants à partir de 10 ans au Soudan. Hein. Donc voilà, c'est un grave problème qu'il faut prendre en compte. Et puis ça me fait penser aussi à la loi là qui est en train de passer, qui est passée devant les députés, hein, et par rapport justement aux violences sexuelles sur les enfants. Et Jean-Pierre Rosenzweig, qui est l'ancien directeur du tribunal pour enfants de Bobigny, a vivement critiqué ce projet de loi contre les violences sexuelles sur le plateau d'un magazine de santé. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire du viol un délit. Supprimez l'article 2. En effet, cette pétition en ligne lancée le 14 mai a déjà récolté plus de 81 967 signatures, dont celle de l'ancienne ministre Yvette Roudy, de l'actrice Karine Viard et de l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon. En cause, l'article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes, actuellement débattu, qui instaure un nouveau délit, l'atteinte sexuelle avec pénétration. Ce délit vient remplacer la notion juridique de viol, considérée comme un crime. La création d'une présomption de non-consentement sexuel en dessous de 15 ans, demandée par plusieurs associations, a été par ailleurs rejetée. Donc on voit que la justice cherche à transformer le viol sur enfant, qui est encore plus grave, en délit et non pas en crime, alors que le viol, c'est un crime. Voilà. Donc, ce magistrat, ancien directeur du tribunal pour enfants de Bobigny et auteur de « Rendre justice aux enfants » aux éditions du Seuil, est venu sur ce plateau expliquer en quoi l'adoption de cette loi constituerait une menace pour le droit des mineurs. En effet, on attendait un message fort en direction de l'opinion pour dire à ceux qui s'attaquent à des enfants qu'ils sont des criminels, et on se retrouve avec des choses compliquées. On dit qu'on va faciliter la preuve de non-consentement et non pas la présumée d'office, hein, pour un enfant. Ça veut dire que les juges pourront toujours dire qu'une gamine de 11 ans a plus ou moins accepté d'avoir des relations sexuelles avec un homme de 28 ans, ce qui est abracadabrantesque. D'un autre côté, on vient renforcer le texte sur les atteintes sexuelles qui veut que quoi qu'il se soit passé, l'adulte qui a des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans est condamnable pour un délit et non pour un crime. Finalement, on n'ira pas vers le viol, mais vers des condamnations purement délictuelles, au lieu d'avancer vers la criminalisation, ce qui permettrait de faire reculer les viols. On change et on va vers des délits simplement. Voilà, donc il critique fermement cette loi en disant qu'il ne faut surtout pas partir de l'idée de consentement et de non-consentement. Par définition, un enfant de moins de 15 ans ne peut pas être consentant à une relation sexuelle avec un adulte, donc c'est un crime. Tout individu doit savoir qu'il ne doit pas s'attaquer à un gamin ou une gamine, qu'il l'ait fait pour telle ou telle raison, que le gamin ou la gamine l'ait plus ou moins séduit, c'est l'excuse des pédophiles. Il n'y a pas d'égalité entre quelqu'un qui a 22, 28 ans, 35 ou 50 ans et quelqu'un qui en a 13 ou 14. Voilà. Donc il faut simplement dire qu'on ne touche pas un enfant. Un point, c'est tout, au lieu de faire une loi très compliquée qui va à l'encontre de la protection des enfants. Voilà, bon, maintenant, on va écouter un petit texte sur la peine de mort pour essayer de bien comprendre ce que c'est que cette peine de mort.
Voir pour comprendre la peine de mort. La définition de la peine de mort est la suivante. La peine de mort ou peine capitale est une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un État dont la législation prévoit ce châtiment. Ok, bon, dit comme ça, mais en fait, en y regardant de plus près, je me rends compte que c'est tout simplement un assassinat étatique. Oui, un meurtre commis par l'État avec préméditation, de sang-froid et infligé au nom du peuple tout entier. Pas la peine d'y aller par quatre chemins, c'est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Comme la torture, une exécution c'est une agression physique et mentale poussée à l'extrême. La cruauté de la peine de mort, c'est non seulement l'exécution elle-même, mais aussi l'attente qui la précède, pendant laquelle le prisonnier est confronté en permanence à la perspective de la mort. Dans certains pays, comme les États-Unis ou le Japon, les condamnés sont exécutés après des années de détention, parfois 30 ans. 30 ans de torture psychologique. Et pourtant, un des droits de l'être humain, nous dit l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est, je cite, « de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Bingo ! La peine de mort avec son cortège d'horreur est sans conteste une aberration. Parce qu'au-delà des textes, il y a la réalité, comme les méthodes d'exécution. Et c'est vraiment pas beau à voir, mais il faut faire face parce que c'est la réalité. La décapitation, couper une tête bien vivante avec un sabre ou une guillotine. L'électrocution sur la chaise électrique. L'injection létale, présentée comme la méthode la plus humaine, on croit rêver, une série de trois injections, une pour endormir, une pour paralyser les muscles, et une pour provoquer un arrêt cardiaque. La lapidation, très ancienne tradition, avec des pierres de la taille d'une mandarine, pas trop petite pour être efficace, mais pas trop grosse non plus pour que la mort ne survienne pas trop vite. Le peloton d'exécution, aux yeux bandés, attaché à un poteau, une marque dessinée sur la poitrine pour désigner le cœur et un coup de grâce dans la tête. La pendaison, l'un des plus anciens moyens d'exécution. Bref, vous l'avez compris, c'est effroyable. Sans oublier le contexte d'exécuter un innocent. Et oui, car l'être humain est faillible, le risque de commettre une erreur judiciaire est toujours présent. Et une fois que l'exécution a eu lieu, eh bien, impossible de faire marche arrière. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas punir un acte criminel. Au contraire, il faut punir pour que le criminel puisse s'amender et être ramené dans le droit chemin. Avec la peine de mort, peu de chances qu'il retrouve le chemin. La peine de mort, c'est une solution brutale et simpliste qui ne fournit qu'une réponse superficielle à la souffrance de la famille de la victime et qui, en plus, étend cette souffrance aux proches du condamné. C'est l'expression tragique d'une culture marquée par la violence, certainement pas un remède à ce fléau, bien au contraire. Il faudra m'expliquer après, droit dans les yeux, ce qui justifie de faire ça à un autre être humain. En même temps, je les connais les arguments pour justifier toute cette horreur. Aucun ne tient debout. C'est une façon de se faire justice ? On parle de vengeance, une vendetta quoi, eh bien non. L'élimination d'un meurtrier n'a jamais réparé son crime, ni ressuscité sa victime. Tuer les agresseurs n'est pas défendre les agressés. Il paraîtrait qu'elle est dissuasive. Les chiffres sont parlants, l'existence de la peine de mort ne réduit pas plus le nombre de crimes que l'abolition de la croix. Écoutez ce que disait Robert Badinter dans son discours à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Ça tombe sous le sens.
Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien... Vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
La peine de mort empêcherait la récidive ? Ah, c'est clair, mais à quel prix ? Et quelle brutale simplification ! Une politique judiciaire ne peut pas tabler sur le seul fait que les morts ne peuvent plus commettre de crimes. Ça repose sur l'hypothèse que l'État peut déterminer, lors de la sentence, quels prisonniers vont récidiver, ce qui suppose que l'humain est une mécanique prévisible. La peine de mort est efficace contre le terrorisme ? Comme si elle pouvait avoir un effet dissuasif sur quelqu'un qui a décidé de mourir pour servir sa cause. La suprématie de l'idéal du terroriste sur la vie humaine, que ce soit la sienne ou celle de ses victimes, le rend insensible à cette menace. En plus, son exécution en fait un martyr qui galvanise les troupes. Utiliser la peine de mort contre les terroristes, c'est faire nôtre leur méthode. Un comble pour une démocratie, non ? Rien ne justifie la cruauté de la peine de mort. Son abolition est impérative et aucune exception n'est envisageable. Comme tout droit, le droit à la vie est indivisible. C'est tout ou rien. Plus de 60 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort est indubitable. Les consciences s'éveillent, les décisions politiques allant dans le sens de l'abolition sont de plus en plus nombreuses. Plus de 2/3 des pays dans le monde l'ont quand même compris et ont aboli dans leur législation ou en pratique la peine de mort. mais il reste encore des pays qui la pratiquent, et pas des moindres. 95% des exécutions dans le monde se déroulent dans 5 États, qui sont l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Iran et le Pakistan. Et ça ne vous aura pas échappé que certains sont à toute l'étape des grandes décisions pour l'avenir du monde. Rassurant, hein ? Le champion, c'est la Chine. Il y avait même des témoignages de journalistes, d'hommes politiques et dissidents chinois qui dénonçaient la multiplication des prélèvements d'organes sur les condamnés à mort. Les exécutions auraient eu lieu en fonction de la demande d'organes. En Iran, la peine de mort est appliquée dans les cas d'homicide, de vol à main armée, de viol, de blasphème, d'apostasie, de conspiration contre le gouvernement, d'adultère, de prostitution, d'homosexualité et des délits liés à la drogue. Et il s'avère que de nombreuses personnes exécutées pour les délits communs, et notamment pour les délits liés à la drogue, sont en réalité des opposants politiques. Tiens, tiens. Le Japon est, avec les États-Unis, l'Inde et Taïwan, l'un des seuls pays démocratiques à pratiquer la peine de mort. Celle-ci est prévue dans la loi de procédure pénale et dans le code pénal pour 13 délits, mais en pratique, elle est appliquée seulement pour l'homicide. Actuellement, aux États-Unis, plus de 3000 personnes se trouvent dans le quartier des condamnés à mort. Si de nombreux acteurs politiques et législateurs des États-Unis ont remis en cause la peine capitale, le gouvernement fédéral s'accroche fermement à sa position anti-abolitionniste. Dans le monde, il ne faut pas perdre de vue que le plus souvent, la sentence de la peine de mort ne se décide pas uniquement en fonction de la nature d'un crime. L'origine sociale et ethnique, les moyens financiers ou l'opinion politique de l'accusé font dangereusement pencher la balance. C'est donc ça la justice ? Et la France dans tout ça ? La peine de mort, qui existait depuis l'époque gallo-romaine, a été abolie en 1981 sous la présidence de François Mitterrand par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Robert Badinter. Il a fallu 2 siècles de combat pour en arriver là. Le dernier condamné exécuté a été Hamida Djandoubi, un immigrant tunisien condamné à mort en 1977 pour homicide et guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes le 10 septembre 1977. C'est la dernière personne à avoir été exécutée dans les pays de la Communauté économique européenne. Mais la loi d'abolition du 9 octobre 1981 n'a pas clos le débat. Régulièrement, des hommes politiques de premier plan se prononcent en faveur du rétablissement de la peine capitale, surtout à l'occasion d'affaires criminelles ou terroristes qui marquent les esprits. Un changement de cap qui serait très compliqué, puisque l'interdiction de la peine de mort résulte en France tant de la loi que de la Constitution et de textes internationaux. Dans ces conditions, aucune loi votée par le Parlement ne pourrait rétablir la peine de mort, sauf à modifier la Constitution et à dénoncer les textes internationaux ratifiés par la France. En outre, pour entrer dans l'Union européenne comme pour y rester, il faut avoir totalement aboli la peine de mort. Extrêmement compliqué donc, mais pas impossible. La vigilance est toujours de mise. Il faut garder un œil sur la situation. Les États qui choisissent l'abolition emploient des voies différentes. Certains d'entre eux suivent des voies politiques et modifient leur constitution comme la France, la République d'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Mexique ou encore la Belgique. D'autres proclament des moratoires, ou d'autres encore se sont tournés vers des voies judiciaires comme l'Ouganda. La plupart des pays qui ont traversé des périodes difficiles au cours de leur histoire ont su abolir la peine de mort, comme par exemple l'Afrique du Sud, qui a aboli la peine de mort en se dotant d'une nouvelle constitution après l'apartheid. La marche vers l'abolition est réelle, même si elle est lente. C'est toujours trop lent lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, de justice ou de barbarie. Et ce combat ne peut pas et ne doit pas être mené seulement au niveau des gouvernements et des instances internationales. C'est un combat qui concerne chaque être humain à la place où il se trouve. Et pour se souvenir de ne pas oublier les conséquences effroyables de la peine de mort, rien de mieux que les paroles d'un homme qui n'a jamais fermé les yeux, Albert Camus. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi.
Voilà, nous allons maintenant parler de l'aberration en France, ce qu'on appelle le délit de solidarité. Voilà, je vous en reparle parce que Martine Landry, qui est membre d'Amnesty International France depuis 2002, qui est la référente régionale d'Amnesty en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la question des réfugiés et des migrants, qui fait partie de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, qui est également impliquée dans des missions militantes de conseil aux demandeurs d'asile et accompagnement dans l'accès à leurs droits. Voilà, cette militante, expérimentée, doit à nouveau être auditionnée le 30 mai, donc dans 2 jours, au tribunal correctionnel de Nice pour délit de solidarité. Alors voici un petit peu, si vous voulez, le déroulé de cette affaire. Et vous allez voir que c'est en lien avec Cédric Héroux, dont on a beaucoup parlé, hein, ce paysan de la vallée de la Roya, qui a accueilli et qui accueille chez lui ces migrants qui remontent cette vallée de montagne et qui sont démunis, qui ont faim et qui ont besoin de protection. Voilà, alors le 17 juillet 2017, quatre mineurs étrangers non accompagnés, arrivés par l'Italie, sont hébergés chez Cédric Héroux. Celui-ci fait une requête d'assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance pour ces quatre mineurs. Parmi ces quatre mineurs, deux sont ceux qui ont donné lieu aux poursuites judiciaires contre Martine Landry. Donc il fait cette demande pour laquelle il reçoit un accusé de réception. Vous savez que les mineurs non accompagnés, quand ils arrivent en France, doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et non pas renvoyés à l'étranger. Entre le 24 juillet et le 28 juillet 2017, le domicile de Cédric Héroux à Breil-sur-Roya est perquisitionné. Tous les migrants qui s'y trouvaient sont renvoyés en Italie via Menton, les adultes par bus et les mineurs en camionnette de police. Martine constate cependant à la gare de Menton que trois mineurs sont mis dans le train et renvoyés en Italie. Le 28 juillet 2017, la police italienne de la frontière renvoie deux mineurs à pied vers la France. Martine Landry les récupère au poste frontière Menton-Vintimille, du côté français, pour les accompagner à la police aux frontières françaises, munis des documents attestant de leur prise en charge par l'ASE. Les deux mineurs sont ensuite pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 31 juillet 2017, Martine Landry se rend au poste de police des frontières à Menton, suite à l'arrestation et au transfert de 11 migrants vers l'Italie. Ce jour-là, elle se voit remettre une convocation pour une audience par la police de Menton le 2 août. Le 2 août 2017, elle est auditionnée par un officier de police judiciaire à Menton. Le 3 août, elle reçoit une convocation pour une audience au tribunal correctionnel de Nice le 8 janvier 2018 pour être jugée sur la base des faits suivants. D'avoir à Menton, Alpes-Maritimes, le 28 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, paraît direct, faciliter l'entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière. En l'espèce, en ayant pris en charge et convoyé pédestrement ces deux mineurs du poste frontière côté Italie au poste frontière côté France. Et ce procès est maintes fois reporté. Le 8 janvier donc 2018, elle doit être jugée par le tribunal correctionnel de Nice. Une délégation d'Amnesty International France est à ses côtés afin de la soutenir, mais aussi de témoigner à son procès, d'organiser la mobilisation militante sur place avec le groupe local de Nice. Le tribunal décide cependant de reporter l'audience afin de mieux étudier le dossier et notamment les conditions dans lesquelles l'aide sociale à l'enfance a été saisie d'une demande de protection des jeunes migrants d'origine guinéenne. Le 14 février, l'histoire se répète, le tribunal correctionnel de Nice décide à nouveau de reporter l'audience de Martine pour cette fois-ci permettre l'obtention de pièces encore manquantes et de mieux étudier celles reçues. L'audience est reportée au 11 avril. Le 2 mars, Martine publie une tribune « Jeunesse de France, la solidarité n'est pas un délit » sur le site du Nouveau Magazine littéraire. Le 11 avril, en raison de la grève des avocats et des magistrats, le procès de Martine est une nouvelle fois reporté au mercredi 30 mai. Donc mercredi qui vient de cette semaine, l'audience de Martine doit enfin se tenir devant le tribunal correctionnel de Nice. Nous serons à ses côtés pour la soutenir dans cette prochaine étape, en espérant qu'elle soit libérée, qu'on supprime ce délit de solidarité qui est complètement contraire à la devise républicaine. Voilà, on va maintenant écouter Georges Brassens, la balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous. tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Ça me fait penser à ce Malien qui n'est pas né à Montreuil, mais qui vient de sauver la vie d'un petit au risque de sa propre vie, hein, et sans se poser les questions. Voilà, et en venant faire cette émission, j'écoutais le maire de Montreuil qui disait qu'il y a beaucoup de Maliens, notamment dans sa commune, et il insistait sur le fait que ces gens, on les considère comme des problèmes, mais c'est souvent un apport inestimable, très important. Et voilà, donc ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend ou de ce qu'on veut nous faire croire, hein, sur les migrants. On va parler maintenant des ventes d'armes françaises. J'en avais déjà parlé dans une dernière émission, hein, pour dire que la France avait vendu des armes, notamment dans le conflit au Yémen. En effet, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, alors que ces pays participent à une offensive meurtrière en cours au Yémen et qu'il existe un risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Le 20 mars dernier, un cabinet d'avocats qu'Amnesty avait mandaté a publié une étude juridique mettant en cause la légalité des ventes d'armes de la France à la coalition saoudienne. C'est dans ce contexte que le député de La République En Marche, Sébastien Nadeau, soutenu par une trentaine de députés, demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux acteurs du conflit au Yémen. Pour que sa demande aboutisse et qu'une enquête soit enfin lancée, notre mobilisation est essentielle. Aussi, je vous invite à aller sur le site d'amnesty.fr et vous avez plusieurs façons d'agir. Vous pouvez d'abord interpeller la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la députée Marielle de Sarnez, décidera s'il y aura ou non une ouverture d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Vous pouvez aussi tweeter, envoyer un mail à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas de tweet. Voilà donc le texte, c'est Madame la Présidente. Le Yémen fait face depuis 2014 à un conflit international qui constitue, selon les Nations Unies, l'une des plus graves crises humanitaires de ces dernières décennies. Amnesty International dénonce les violations graves du droit international humanitaire commises par l'ensemble des parties au conflit. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont parmi les principaux membres de la coalition militaire engagée au Yémen. Depuis le début du conflit, ces pays ont commis de façon généralisée et systématique des violations du droit international humanitaire qui pourraient être qualifiées de crimes de guerre. Pourtant, la France a continué ses livraisons de matériel de guerre à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, malgré le risque que ce matériel puisse servir à faciliter ou à commettre des violations graves des droits humains. Les licences d'exportation et les livraisons françaises comportent un risque fort d'illégalité au regard du droit international. Afin de faire toute la lumière sur la légalité des ventes d'armes françaises aux belligérants impliqués dans le conflit yéménite, je vous demande de soutenir la résolution du député Sébastien Nadeau appelant à la création d'une commission d'enquête. Plusieurs milliers de civils au Yémen ont été tués ou mutilés par les attaques de la coalition. Cette commission pourrait permettre de faire la lumière sur les conditions de transfert d'équipements militaires français à destination des pays impliqués dans ce conflit dramatique. Voilà, donc vous pouvez envoyer aussi un tweet de soutien à la trentaine de députés qui se sont engagés à soutenir cette demande. Vous avez la liste sur le site d'amnesty.fr. Et puis, vous pouvez aussi interpeller le député de votre choix par courrier. Vous avez un exemple type de courrier et vous pouvez l'envoyer à votre député ou au député de votre choix. Voilà, je vous rappelle donc en tant que partie au traité sur le commerce des armes, la France est engagée à ne pas autoriser de transfert d'armement dès lors qu'il existerait un risque prépondérant ou clair que ces armes puissent être utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire. Donc il y a une commission d'enquête qui devrait être diligentée pour faire cette lumière et voir si la France respecte le traité qu'elle a signé ou pas. Il faut faire la lumière sur ces ventes d'armes. C'est très important au niveau de la sécurité internationale. Nous allons maintenant écouter Julos Bocarn, Les Auges d'aujourd'hui.
Les auges d'aujourd'hui ne se retournent plus sur les cochons, plus sur les cochons, plus sur les cochons. Les puissants de ce monde n'acceptent plus que les foulées des filles, n'acceptent plus que les foulées des filles. J'ai beau tempêter sur ma turlurette, c'est comme le bruit, c'est comme le bruit, c'est comme le bruit d'un moustique qui pète. Les fougas magistères ont détruit leur ouïe, les fougas magistères ont détruit leur ouïe. Magistère Dixit, faut pas que tu t'inclines, c'est utile de te, c'est utile de te, c'est utile de te ruiner les babines. Mais te faut d'abord t'acheter des oreilles, mais te faut d'abord t'acheter des oreilles. Car mieux vaut dire peu pour dire davantage, le savais-tu pas? Le savais-tu pas? L'art de la litote s'apprend à tous âges. Mesure ton vent au mouton tendu, mesure ton vent au mouton. Et ces messieurs boitent, il est inutile de leur faire danser la polka piquée, ni de les sacrer du nom d'imbécile. Ils ont des poignards bien mieux aiguisés, ils ont des poignards bien mieux aiguisés. Vous qui avez tant soit peu de jugeote dans le pigeonnier, plutôt que toujours vous chercher des crosses, mettez-vous d'accord pour les bien contrer, mettez-vous d'accord pour les bien contrer. Oh! Les blés sont sous la grêle. Fou qui joue au dé, fou le délicat, fou qui songe à ses querelles. Au commun combat, au cœur du commun combat.
Voilà, très belle chanson de Julos Bocarn. Le commun combat, c'est justement pouvoir vivre sur cette terre tous ensemble. Voilà un beau message de paix de Julos Bocarn. Hélas, l'actualité n'est pas très réjouissante. Hein. On a vu récemment à Gaza, lors de ces manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, une cinquantaine de Palestiniens ont été tués et des milliers ont été blessés à Gaza. Un nouvel exemple du recours excessif à la force par l'armée israélienne. L'utilisation de balles réelles d'une façon totalement déplorable, c'est une violation des normes internationales et dans certains cas, il semble que nous soyons face à des homicides délibérés, ce qui constitue des crimes de guerre. Donc on en revient au sujet de tout à l'heure. Un embargo sur les armes s'impose. Les images de Gaza sont tellement inquiétantes et la violence continue d'échapper à tout contrôle. Les autorités israéliennes doivent maîtriser l'armée afin de prévenir d'autres pertes en vie humaine et blessures graves. En avril, nous avons demandé à la communauté internationale de cesser de livrer des armes et des équipements militaires à Israël. Le bilan des victimes, qui ne cesse de s'alourdir, met en lumière la nécessité d'instaurer sans attendre un embargo sur les armes. Si certains manifestants ont pu se livrer à des actes violents, cela ne peut en aucun cas justifier l'utilisation de balles réelles. Les premiers rapports médicaux en provenance de Gaza indiquent que des dizaines de personnes ont été atteintes par des balles à la tête ou à la poitrine. Au titre du droit international, les armes à feu ne doivent être utilisées que pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessures graves. Ainsi, en avril, les recherches que nous avons d'ores et déjà menées ont montré que l'armée israélienne a tué et mutilé des manifestants qui ne présentaient pourtant pas de menace imminente pour les soldats. Voilà. Alors maintenant, je vous parle un petit peu de la réunion du groupe dinois. Nous nous réunissons tous les derniers mardis de chaque mois. Donc notre prochaine réunion, c'est demain à 18h, salle des associations, à côté de la mairie de Digne. Donc s'il y a des auditeurs qui voudraient voir un petit peu comment ça se passe, je vous invite à venir assister à notre réunion. Alors demain, nous ferons donc le bilan de notre foire aux livres. On fera un compte rendu du week-end des antennes jeunes régionales à Montpellier. Donc ça, c'est une initiative notamment de l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Ces jeunes militants d'Amnesty International ont le désir de se former, de mieux connaître les droits humains, l'action d'Amnesty. Et donc, ils ont eu en septembre un week-end à Paris et ils se sont vus à cette occasion entre jeunes de la région de Provence, si vous voulez. Et entre eux, ils se sont dit ça serait bien d'organiser un week-end pour continuer cette formation, cette connaissance, pour être plus efficace dans nos lycées, dans nos facultés, etc. Et puis, bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, Violette, une jeune de l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes, viendra demain nous faire le compte-rendu de ce week-end qui s'est déroulé à Montpellier. Ensuite, on parlera de la fête de la solidarité qui aura lieu le mercredi 4 juillet à Digne, sur la place principale de Digne. Donc il y a plusieurs associations de solidarité qui seront présentes, dont Amnesty International qui aura un stand. Donc on va un petit peu voir entre nous qui tiendra le stand, qu'est-ce qu'on y mettra. On pense notamment à mettre les réalisations de l'antenne jeune du lycée Pierre-Jules de Gênes. Je sais qu'ils ont fait une exposition, ils ont construit une exposition sur l'accueil des migrants à Digne. On fera un point sur l'aide aux réfugiés, puisque nous avons plusieurs membres de notre groupe qui viennent directement en aide aux réfugiés qui sont sur Digne, et notamment qui sont à Champtercier. Et notamment, cette aide, c'est pour construire avec eux leur dossier de demande d'asile. Et puis, on parlera de l'AG d'Amnesty International France qui va avoir lieu fin juin à Grenoble. Donc, on a reçu les documents qui sont sur Extranet. C'est un Internet qui est réservé aux membres d'Amnesty. Et on va discuter notamment des résolutions qui sont présentées soit par les groupes, soit par le conseil d'administration pour savoir un petit peu ce que notre représentant du groupe pourra voter ou pas voter. Voilà. Ensuite, on aura des questions diverses et c'est comme ça que se terminera notre réunion. Si ça vous intéresse de voir un peu comment ça se passe, venez demain à 18h, salle des associations. On va terminer cette émission par une chanson, True French Flavor. C'est une chanson de mon cousin Jean-Guy Coulanges. Voilà, qui parle de sa mère, qui était donc ma tante, qui est décédée depuis quelques années. Et il a chanté d'ailleurs cette chanson le jour de son enterrement. Ça parle de sa maman qui, quand elle partait en vacances avec son mari, souvent ils allaient en France. Ils ont visité un peu tous les coins de France et chaque fois, elle aimait beaucoup envoyer des cartes postales. Alors ça se fait moins maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu la nostalgie de ces cartes postales que ses enfants recevaient, que j'en recevais aussi, hein, puisque j'étais son neveu. Et ça faisait toujours plaisir d'avoir un petit coucou de l'endroit où ils passaient leurs vacances. Voilà, donc ça s'appelle True French Flavor.
Souvenir de Marseille, la rue des Bannières, la calanque d'Envaux, beau coucher de soleil, vu de la Canebière, entrée d'un paquebot, Montferrat, le Verdon, Digne les environs. Saint-Agnan, le Vercors, la rue Soubéran, quand le soleil couchant met sa parure d'or. C'est true French flavor, quand ma mère m'écrit. C'est true French flavor, écris-moi encore. Bel effet de lumière, rose à la boutonnière, l'air pur de Pralognan. C'est la transhumance, les cent ans de Provence, le vieux pont Saint-Laurent. Vallée de la Clarée, la maison isolée, image de chez nous. La danseuse à deux gars, Virginie Nicolas, échappée sur le criou. citron, French flavor. Quand ma mère m'écrit, citron, French flavor. Écris-moi encore. Premier jour d'automne, c'est la foire Guillaume. Toi tu redentres à Manosque la place, image du Queyras, chant de coquelicot. Ségur, la Qatar, Toulouse, ville d'art, le col du Tourmalet, Murat dans le Cantal, toutes ces cartes postales que tu m'as envoyées. C'est true French flavor. Quand ma mère m'écrit, c'est true French flavor. Écris-moi encore. C'est true French flavor. Quand ma mère m'écrit, c'est true French flavor. Écris-moi encore.
Voilà, c'était voilà. Bien beau, cette voilà. Chanson.
Et donc, Jean-Guy Coulanges, il a plusieurs CD, hein, si vous voulez voir un peu sur Internet ce qu'il fait. Voilà, c'est pas mal. C'est pas parce que c'est mon cousin, mais c'est pas mal. On se quitte donc sur cette chanson et à la prochaine fois.
Oui, merci Régis, à bientôt.
Sidewalk is a river that I fish dry. Oh, that sidewalk is a river that I fish dry. And now it's my head.